Chapitre 2. Souvenir. New Hampshire, 6 avril 2010. Pour être parfaitement honnête, j'avais d'abord cru que l'écriture, puis la publication de la vérité sur l'affaire Harry Kéber me permettrait de tourner la page de mon amitié abruptement rompue. Mais l'engouement général que suscitait le livre ne faisait que me rappeler combien je restais marqué par cette affaire. Pas tant par l'enquête, désormais close, ni par ses conclusions, mais par cette question encore restée en suspens, où était passé Harry Kéber? Que lui était-il arrivé? Et pourquoi avait-il décidé de disparaître de ma vie? J'ai longuement raconté dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber comment Harry et moi nous étions liés. Il est inutile d'y revenir ici, il est simplement nécessaire de préciser que Harry crut suffisamment en mon avenir d'écrivain pour m'inviter chez lui afin de travailler mes textes. La première fois que je me rendis à Aurora, c'était en janvier 2000. Je découvris à la fois son extraordinaire maison de Goose Cove, une maison d'écrivain à l'écart du monde, posée au bord de l'océan, et sa solitude, que je n'avais jamais soupçonnée. Le célèbre Harry Kéber, personnage charismatique et adulé, était en réalité un homme étonnamment seul, sans femme, sans enfant, sans personne. Je me souviens bien de ce jour-là. Son frigo était désespérément vide. Quand je le lui fis remarquer, il m'expliqua qu'il n'avait pas l'habitude de recevoir. Il m'avait alors emmené manger au Clark's, le diner de la rue principale. C'est ainsi que je découvris cet endroit qui faisait partie intégrante de la légende de Harry. J'y rencontrai Jenny Quinn, la patronne, qui en pinçait pour Harry depuis 25 ans. Celui-ci avait une table attitrée, la table 17, sur laquelle Jenny Quinn avait fait visser une plaque portant l'inscription « C'est à cette table que durant l'été 1975, l'écrivain Harry Kéber a rédigé son célèbre roman « Les origines du mal ». Les origines du mal, paru en 1976, était le livre qui avait offert à Harry la célébrité et la gloire. À mes interrogations admiratives sur ce roman, Harry avait fait la moue. Je ne suis l'auteur que d'un succès. Je ne suis connu que pour ce seul roman. Mais quel roman? Un chef-d'œuvre! Jenny était venue prendre notre commande. Harry lui avait dit à mon sujet, si ce jeune homme se met à écrire comme il boxe, Jenny, il deviendra un grand écrivain. Lorsqu'elle était partie, j'avais demandé à Harry d'expliciter sa pensée. Il m'avait alors répondu, on voudrait toujours qu'un grand écrivain ressemble à ceux qui l'ont précédé, sans penser que s'il est un grand écrivain, c'est justement parce qu'il ne leur ressemble pas. Comme je ne semblais pas convaincu, il avait ajouté « Vous savez, Marcus, je vous ai vu chez moi pas plus tard que tout à l'heure, contempler avec passion les classiques dans ma bibliothèque. Vous regardez ces livres en vous demandant si dans 50 ans on regardera les vôtres de la même façon. Commencez par écrire un bouquin, ce sera déjà pas mal, et arrêtez de nous casser les pieds avec la postérité. Je voudrais être comme vous, Harry. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je ferai tout pour que vous ne me ressembliez pas. C'est justement pour ça que vous êtes là. » Je n'avais pas compris le sens de sa phrase. Je n'étais qu'un jeune homme qui découvrait son mentor. Comment pouvais-je imaginer à ce moment-là, aveuglé par ma naïveté, l'affaire qui allait éclater à l'été 2008 dans cette petite ville paisible et qui verrait les origines du mal, ce roman considéré comme un ouvrage majeur de la littérature américaine, être retiré du jour au lendemain des rayonnages des librairies et des bibliothèques. En ce jour d'avril 2010, 10 ans après y être venu pour la première fois, je me garais devant le Clark's. Marcus, jadis étudiant rêveur, était de retour, auréolé de gloire, mais sans Harry. Suite aux événements de l'été 2008, l'établissement avait été vendu. À l'intérieur, je ne connaissais personne, ce qui m'arrangeait car la plupart des habitants de la ville me battaient froid depuis que j'avais réveillé les tréfonds d'Aurora pendant mon enquête sur l'affaire. À part le changement de propriétaire, rien n'avait bougé, ni le décor, ni le menu. La table de Harry était libre, je m'y installai. Pour les habitués, c'était désormais celle des pestiférés. Seuls les gens de passage s'y asseyaient. Depuis l'été 2008, la plaque avait été enlevée. Il ne restait que les trous des vis, tels des impacts de balles, vestiges d'une exécution. Je commandai un cheeseburger frite que je mangeai en regardant par la fenêtre. Alors que j'ai terminé mon repas, je fus rejoint par Ern Pinkas, le bibliothécaire municipal. Ern était mon dernier soutien à Aurora. C'était un homme au grand cœur, un amoureux des livres, son unique compagnie depuis son veuvage. Ern gérait la maison Harry Kébert pour les écrivains, un programme que j'avais mis sur pied en lien avec l'université de Burroughs, qui avait permis de transformer la maison de Harry Kébert à Goose Cove en résidence d'écriture pour de jeunes plumes prometteuses. Le scandale de l'été 2008 avait terni la réputation de Harry, mais son aura restait intacte. Les candidats se pressaient au portillon pour avoir l'opportunité d'un séjour en ce lieu prestigieux et confortable. Ern Pinkas s'occupait de faire la sélection conjointement avec la faculté de lettres de Burroughs qui, elle, finançait l'entretien des lieux. La maison pouvait accueillir jusqu'à 6 écrivains qui y vivaient en communauté pendant 3 mois. Du fait de ses nouvelles fonctions, Ern disposait à Burroughs d'un petit bureau, ce qui l'emplissait de fierté. Ern s'assit face à moi.
Marcus, qu'est-ce que tu fais encore là ?
Son étonnement tenait au fait qu'il m'avait déjà vu ici une semaine plus tôt, alors que j'étais en route vers Montréal. Nous avions pris un café à Goose Cove et j'en avais profité pour saluer les nouveaux résidents qui resteraient jusqu'à l'été. « Je passais par là, » répondis-je, « et je me suis arrêté pour déjeuner. »«
Depuis Montréal ?»
Son intonation me faisait bien comprendre qu'il n'était pas dupe, que j'étais ici à la poursuite de Harry ou de mes propres fantômes.
« Tes trajets sont devenus des errances, Marcus, » me dit-il.
Ern avait mis le doigt là où ça faisait mal. Il poursuivit.
« Tu sais qui faisait ça ?»«
Faire quoi ?»«
Traîner au Clarks. »« Harry. » »« Je me suis toujours demandé ce qu'il fabriquait, à passer des heures ici même, à cette table, les yeux dans le vide comme tu le fais. Je pensais qu'il cherchait l'inspiration. Mais en fait, il attendait Nola. »
Je lâchai un long soupir.
Je voudrais juste un signe, Ern. Harry ne viendra plus à Aurora.
Et comment peux-tu en être aussi certain?
Il a tourné la page, lui. Tu devrais en faire autant.
Que veux-tu dire?
Il a tourné la page grâce à toi, Marcus. Il sait ce qui est arrivé à Nola désormais. Il n'a plus besoin de l'attendre ici. Il a pu enfin s'en aller. Aurora était sa prison et tu l'en as libéré.
Non, Ern, Aurora était...
Tu sais que j'ai raison, Marcus,
m'interrompit Ern.
Tu sais que Harry ne viendra plus jamais ici. On ne peut pas attendre ses amis comme on attend le bus. Pourquoi t'obstines-tu à revenir ici? Profite de la vie. Arrête de te torturer l'esprit. Tu es un chouette gars, Marcus. Il est temps de passer à autre chose.
Ern avait raison. Mais mon déjeuner terminé, je ne pus m'empêcher de faire un pèlerinage à Goose Cove. Je fis quelques pas sur la plage en contrebas de la maison de Harry, avant de m'asseoir sur un grand rocher et d'admirer les lieux. Je regardais l'impressionnante demeure, riche de tant de souvenirs. Sur le sable, des mouettes sautillaient. Peu à peu, le ciel se voila de nuages gris et une bruine légère se mit à tomber. C'est alors que je vis apparaître, d'entre le rideau de brume, un homme que je considérais comme un ami cher, Perry Gallowood, sergent au sein de la brigade criminelle de la police d'État du New Hampshire. Il marcha vers moi, en arborant un sourire amusé, un gobelet de café dans chaque main. Ceux qui me connaissent et me lisent savent tout des liens qui m'unissent à Perry Gallowood. Pour les autres, permettez-moi de le rappeler brièvement ici. J'avais fait la connaissance de Perry 2 ans plus tôt, au cours de la fameuse affaire Harry Kébert, dont il avait eu la charge. Nous avions ensemble fait toute la lumière sur la mort de Nola Kellerghan. Certains diront que l'élucidation du meurtre de Nola m'avait permis d'écrire mon second roman. Elle m'avait en réalité permis de faire germer les graines de l'amitié que j'allais nouer avec ce policier hors du commun qui ressemblait aux fruits du désert. Épineux, protégé par une écorce épaisse, mais renfermant une pulpe sucrée et un cœur tendre. Tel était Perry Gallowood, rugueux, brut, irascible, mais fidèle, droit et juste. Il paraît que la qualité d'un homme se juge à sa famille, et sa famille, que je connaissais bien, respirait le bonheur. Sergent ? Depuis le jour de notre rencontre, je l'appelais sergent et il m'appelait l'écrivain, et nous avions perpétué cette tradition. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il me tendit l'un des deux gobelets de café. « Je devrais vous retourner la question, l'écrivain. Vous savez que chaque fois que vous vous pointez ici, il y a au moins une personne qui appelle la police. C'est dire la bonne impression que vous avez laissée dans cette ville. Vous êtes pire que ma mère, sergent. » Il éclata de rire. « Quelle mauvaise raison vous amène à Aurora, l'écrivain. » J'étais sur le chemin du retour depuis Montréal et je me suis arrêté en route. « C'est un détour de 2 heures, » me fit remarquer Galwood. Je désignais du menton la maison battue par les éléments. « J'ai aimé cette maison, » dis-je. « J'ai aimé cette ville. Quand on aime, c'est malgré nous, c'est pour toujours. »« Si vous pensez aimer cette ville, vous vous trompez, l'écrivain. Vous aimez les souvenirs que vous avez ici. Ça s'appelle la nostalgie. » La nostalgie est notre capacité à nous convaincre que notre passé a été pour l'essentiel heureux et que par conséquent nos choix ont été les bons. Chaque fois qu'on évoque un souvenir et qu'on se dit « c'était bien », c'est en fait notre cerveau malade qui distille de la nostalgie pour nous persuader que ce que nous avons vécu n'a pas été vain, que nous n'avons pas perdu notre temps, parce que perdre son temps, c'est perdre sa vie. En l'entendant, je crus que Galwood, toujours prompt à lancer un pavé dans la mare, s'exprimait de façon générale, sans me douter qu'il parlait de lui. Comme je me sentais visé, je lui dis ah, « C'était bien quand même à Goose Cove. »« Bien pour vous, je n'en suis pas si sûr. Vous êtes l'écrivain de la décennie et vous errez dans un bled du New Hampshire. La dernière fois que je vous ai vu ici, c'était en octobre, vous vous en souvenez ?»« Oui ?»« Je pensais que vous étiez venu faire vos adieux à cette maison. » Nous avons bu une bière, plus ou moins au même endroit, et vous m'avez sorti tout un baratin selon lequel vous partiez à la quête de l'amour. Un flop, apparemment. Vous êtes toujours avec votre pilote ? Perry Galwood était la personne la mieux informée de l'évolution de ma vie sentimentale. Je l'avais appelé après chaque nouvelle rencontre. Lorsque j'avais fait la connaissance de Reagan, il était la première personne à qui je m'étais confié. Je crois que Reagan et moi, c'est plutôt sérieux. « Eh bien, enfin une bonne nouvelle, l'écrivain. Évitez de l'emmener passer des vacances ici, si vous voulez que ça dure. Figurez-vous que je l'emmène aux Bahamas. » « Vous m'énervez, l'écrivain. Sur une île privée, un endroit extraordinaire. Vous voulez voir des photos ? J'ai envie de dire non, mais je sens que vous allez me les infliger quand même. » Assis tous les deux sur notre rocher, indifférents au crachin qui nous tombait dessus, nous eûmes une conversation sans grand intérêt, un échange banal entre deux amis, et si je la mentionne ici, c'est que son intérêt réside justement dans le fait que je ne pris pas de nouvelles de Galwood. Je m'enquis de sa femme, Hélène, de ses filles, Malia et Lisa, mais je ne lui demandais pas comment il allait, lui. Je ne lui offris pas l'opportunité de se confier, et notre échange s'acheva sans que je me doute une seconde de ce qui se tramait dans sa vie. Notre café terminé, Galwood se leva. L'heure de retourner à vos affaires criminelles ? Lui demandai-je. Non, je dois aller retrouver Hélène. C'est l'anniversaire de Lisa. Nous avons quelques courses à faire. Elle a 11 ans aujourd'hui. 11 ans déjà ? Qu'est-ce que ça vous fait, sergent papa ? Petit coup de vieux ? Pour toute réponse, Galwood eut un air triste. Je m'en inquiétais. Tout va bien, sergent ? Vous n'avez pas l'air enchanté. Malheureusement, c'est une date qui me rappelle un souvenir douloureux. Il y a exactement 11 ans, le 6 avril 1999, ma vie a basculé. Que s'est-il passé ? Comme il savait si bien le faire lorsqu'il s'agissait de parler de lui, Galwood changea de sujet. Peu importe, l'écrivain. Ce soir, nous faisons un dîner à la maison pour Lisa, avec toute la famille. Joignez-vous à nous. C'est à 18 heures. « Avec plaisir. Je peux même venir plus tôt si vous voulez. »« Surtout pas. Interdiction formelle de vous pointer avant 18 heures. »« À vos ordres, sergent. » Il s'éloigna de quelques pas avant de se retourner vers moi et de me dire de son habituel ton provocateur. « N'allez pas croire que je vous considère comme un membre de la famille, l'écrivain. Mais Hélène me tuerait si je ne vous invitais pas.
Je ne crois rien du tout, répondis-je en souriant. Il s'en alla pour de bon.
Je restai un moment encore sur la plage, à me demander ce qui avait bien pu se produire dans la vie de Perry 11 ans plus tôt. J'étais loin d'imaginer le drame qui le hantait depuis des années, jusqu'aux événements que je m'apprête à vous raconter ici.